Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des possibilités. Ici, on ne cloisonne pas l'avant et l'après, on croit au pendant, à son potentiel de passé et de futur. À nous de l'exploiter, ou plutôt de l'explorer. Avant moi, un homme qui aurait eu 100 ans et un jour aujourd'hui l'avait compris, c'est l'auteur de La Jetée, le cinéaste Chris Marker.
Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires. Appeler le passé et l'avenir au secours du présent.
Émissaire du futur, débarqué dans notre temps non linéaire, Billie Eilish a eu l'air d'une martienne à 18 ans quand elle a tout raflé aux Grammy Awards. C'était il y a un an et demi. Mise en orbite aujourd'hui, son nouvel album est venu à nouveau percuter notre réel. Et si Billie Eilish produisait le son que la planète attendait, sans l'être encore vraiment formulé? C'est une hypothèse séduisante. Nous en formulerons d'autres ce soir en ajoutant au voyage dans le temps un voyage dans l'espace. Avec l'astronome Fatoumata Kebe, le vagabond Julien Blangras et l'aventurier Édouard Baird.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Autour de la Terre et dans l'univers, on part à la recherche des futurs sur France Inter.
Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way, I made him sign an NDA.
Sur France Inter, NDA, extrait du tout nouvel album de Billie Eilish, Happier Than Ever, où le bonheur s'exprime en mode mineur et où la guérison est un voyage intérieur. Elle est une étoile brillante et ne jure que par la lune. jeune docteur en astronomie formée à l'ingénierie spatiale à l'université de Tokyo. Elle est l'une des Françaises les plus influentes du monde et s'est intéressée avant Gravity au problème des débris dans l'espace. Fatouma Takebe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Billie Eilish, c'est le son de l'espace ?
Je n'écoute pas du tout Billie Eilish, pas trop de musique. Moi, c'est plutôt les podcasts que j'aime écouter.
Vous écoutez quoi ?
Alors, Secret d'info, c'est...
C'est votre passion ?
Oui, j'aime beaucoup. Enfin, la structure du podcast, la narration, j'aime beaucoup. Enfin, comment les sujets sont traités.
Et la musique de l'espace, c'est quoi pour vous ? Est-ce que c'est une inspiration ? On a toujours cherché, les hommes ont toujours cherché à comprendre comment ça sonnait l'espace.
Oui, et effectivement, même la NASA a mis des enregistrements audio de l'espace. Mais moi, quand je pense espace, moi je pense à la vision plutôt, comme sens. C'est voir ces milliers d'étoiles, voir ces astres, voir peut-être la Terre depuis l'espace. C'est vraiment la vision qui me touche le plus.
Et vous vous apprêtez d'ailleurs à donner une série de conférences grand public à l'occasion de la Nuit des Étoiles au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Vous vous êtes engagé dans différentes associations de démocratisation de cette vision de l'espace et de l'astronomie. Pourquoi c'est important de rendre le ciel accessible, Fatouma Takebe ?
C'est une question de transmission de la connaissance que moi j'ai pu avoir pendant toutes ces années. Et c'est aussi auprès des gens démystifier en fait certaines choses et éviter qu'ils aient des croyances qui sont erronées. Et c'est aussi parce que c'est un savoir qui est censé être diffusé auprès de tout le monde. Enfin, quand j'ai fait mes études, c'était aussi une manière aussi... Enfin, il y a la science citoyenne. Ma science doit être transmise, quoi qu'on en dise. Elle ne doit pas être que pour moi et mes collègues, en fait. Donc c'est aussi, en tant que citoyenne, c'est un devoir.
On sait qu'il y a un grand hacker disparu depuis qui s'appelle Aaron Schwartz qui avait essayé de mettre toute la connaissance du MIT à disposition sur des internets. C'est cette démarche-là d'accès au savoir qui vous porte ?
Moi, c'est surtout en fait dans le fait que selon l'endroit où vous êtes né, vous allez avoir accès à un certain niveau de connaissance. Et je trouve ça profondément injuste, comme je trouve injuste que le système scolaire soit inégal. Parce que, il y avait un exemple qui a été mis, enfin, le Conseil national du système d'évaluation du système scolaire français avait démontré que pour deux collégiens en troisième, un qui est dans un des meilleurs collèges, l'autre dans un des pires collèges, celui qui est dans le meilleur collège va au moins acquérir 80% des compétences demandées en français, quand l'autre va seulement en avoir 30%. Et donc, on peut pas demander à ces deux jeunes de penser à un même type de futur, en fait. Quasiment tout est déjà cloisonné et pour moi, c'était dans le fait d'apporter ma connaissance, c'est de me dire, je peux aider un peu pour que tu n'aies pas trop de gap par rapport à ceux qui sont plus favorisés.
Vous faites un rattrapage des écarts.
À mon niveau.
Est-ce que pour vous, finalement, le parcours qu'on a tendance à décrire chez vous comme ascensionnel, l'idée que vous veniez de Montreuil, que toute seule vous ayez décidé donc de faire ce doctorat, cette thèse, est-ce que pour vous c'est une trajectoire finalement qu'il faut banaliser plutôt que starifier ?
Alors, je viens de Noisy-le-Sec.
De Noisy-le-Sec.
93-130.
Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est 93, mais c'était pas Montreuil.
C'est ça. En fait, c'est que pour moi, quand j'ai fait toutes ces études, ça me paraissait normal. Et c'est dans le regard des autres, on m'a dit, mais non, ce que tu as fait, c'est quelque chose qui est anormal, qui est inattendu. Et pour moi, c'est pas normal. Et donc, c'est quelque chose qui doit changer avec le temps.
Est-ce que... un parcours comme celui de l'entrepreneur spatial Elon Musk qui affiche une photo de Mars à l'entrée des locaux de SpaceX, sa firme, vous inspire ou vous repousse ?
Moi, ça ne m'inspire pas personnellement. Déjà, il faut voir le message qu'il a derrière ça, c'est on va coloniser Mars. Et moi, ça me pose vraiment problème de me dire qu'on va aller sur une planète qui ne nous appartient pas et de dire qu'on va faire ce qu'on a fait sur Terre. Puisqu'il y a un mot, enfin le mot coloniser, il est quand même assez lourd. Et j'aime pas en fait cette manière d'aller. Là, c'est pas explorer l'espace, c'est conquérir l'espace. Et je suis contre.
Je suis très heureux de participer à cette aventure spatiale et humaine. Et maintenant, j'espère qu'on pourra aller sur la Lune et sur Mars. Je souhaite que notre humanité parte à la conquête de l'espace et qu'un jour, l'espèce humaine soit présente sur plusieurs planètes.
On l'entend ce mot de conquête hein, prononcé par Elon Musk, c'était en avril dernier suite au lancement de la fusée SpaceX avec laquelle l'astronaute Thomas Pesquet est arrivé jusqu'à l'ISS. Depuis, Jeff Bezos, autre milliardaire, patron d'Amazon et de Blue Origin, s'est offert une virée privée à bord de la capsule New Shepard. Comment vous la voyez cette course à l'espace, Fatouma Takebe ?
Alors, je ne sais pas si c'est une course à l'espace.
On parle parfois de space race entre ces milliardaires et ces entreprises.
Oui, en fait, pour moi, on ne peut pas faire le parallèle qu'à l'époque de la guerre froide avec les missions Apollo, etc. Là, c'est vraiment particulier parce qu'il y a une notion, il y a une compétition entre ces entreprises privées. Et c'est aussi un nouveau marché qui sont en train d'ouvrir, qui est la possibilité pour les personnes ayant beaucoup d'argent de faire un petit tour dans l'espace. Donc, moi, je vais plutôt parler de nouveaux marchés qu'ils essayent d'ouvrir dans le domaine du spatial.
Donc, pour vous, ce sont de nouveaux marchés, mais pas de nouvelles connaissances et pas de nouveaux imaginaires.
Il y a forcément des connaissances qui émergent dans le fait qu'ils aient travaillé sur les capsules, les navettes, etc. C'est sûr et certain. Après, c'est juste que il y a l'environnement en fait qu'on ne prend pas en compte. On sait déjà qu'on vit là les conséquences du changement climatique. On sait aussi que dans l'espace, on a aussi des problèmes liés à tout ce qui est activité humaine.
Vous êtes en effet une spécialiste des débris dans l'espace. Est-ce qu'on se dirige vers un espace poubelle, comme on est aujourd'hui un sixième continent, une île aux ordures sur Terre?
Je dirais que c'est...
Prenez le temps d'expliquer.
Oui, alors les débris spatiaux, donc, sont les vestiges d'activités humaines autour de la Terre, donc des satellites qui ont fini leur mission qu'on a laissé là-haut, des morceaux de fusées, des morceaux beaucoup plus petits qui viennent de ces deux gros objets en général. Et effectivement, ils représentent deux risques majeurs. L'un, c'est de rentrer en collision avec un autre satellite qui est opérationnel, par exemple Galileo, qui est système de positionnement européen, ou alors qu'il rentre sur Terre. Mais comme la Terre est recouverte à 2/3 de sa surface par les océans, on dit que le risque est moindre. Mais il existe. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a un morceau de fusée chinoise qui est retombé, en fait. Et une chose aussi dont on ne parle pas, c'est que les objets, quand ils rentrent sur Terre, donc ils passent par l'atmosphère qui va plus ou moins les brûler partiellement ou totalement, mais l'atmosphère, elle est déjà fragilisée, en fait, par nos activités sur Terre. Et on sait que le fait qu'il y ait autant de rentrées d'objets artificiels, parce qu'on en envoie des tonnes chaque mois, ça l'éprouve.
Donc, ça veut dire quoi que ça éprouve l'atmosphère?
Ça la fragilise.
Et donc, avec quelles conséquences et quelles perspectives?
Elle ne peut plus remplir sa fonction première, en fait, qui est aussi de nous protéger des radiations du soleil. Enfin, en fait, on fragilise même ce qui nous protège, en fait, au final.
Explorer, ici Houston.
Parlez, Houston.
Mission avortée, je répète, mission avortée. Procédez au désarrimage d'urgence du télescope Hubble.
Houston, développé.
Les débris de l'impact missile ont causé une réaction en chaîne. En percutant d'autres satellites, ils ont créé de nouveaux débris. Et ça file à la vitesse d'un boulet de canon vers votre altitude.
Monsieur Matt.
Houston, situation?
C'est une réaction en chaîne totale.
Excellent, je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite BSE.
Attention!
Je répète, j'ai un contact.
Et si Dr. Stone, je demande un transport plus rapide.
Il faut partir, on y va.
Gravity d'Alfonso Cuarón en 2013. Pour vous, Fatuma Takebe, c'est un risque, ce qu'on voit dans Gravity, c'est-à-dire des collisions de plus en plus nombreuses dans l'espace, des bombes à retardement, en fait.
Exactement. On a eu deux satellites cette année, enfin, au moins deux qui sont fragmentés. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y en a un, je crois que c'était le satellite chinois, qui lui s'est fragmenté en 16 morceaux. Donc, on espère qu'il ne va pas entrer en collision avec un autre satellite. Mais effectivement, c'est un danger qui est de plus en plus présent, puisque maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs qui envoient des satellites autour de la Terre.
Et il y a des sociétés aussi qui sont chargées de les ramener. Ça peut fonctionner, ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de débris qui sont collectés, ramenés, recyclés, peut-être même?
Il n'y a pas de débris qui sont, à proprement dit, collectés. C'est juste que des fois, certains opérateurs, acteurs, vont faire rentrer leurs satellites sur Terre, enfin, leurs objets spatiaux sur Terre. Mais en soi, il n'y a pas encore d'entreprise qui puisse faire ça, puisque ça coûte cher, et il faut trouver les clients, il faut trouver les fonds pour le faire.
Alors, vous avez publié, non pas Lettre à Mars, mais Lettre à la Lune. C'est plutôt elle qui vous intéresse. Et on le voit, ce sont les écrivains et les poètes, les premiers explorateurs spatiaux, en fait. Comme Jules Verne, qui inspire au 19e siècle l'équation fondamentale de l'astronautique. En quoi le cinéma, et la littérature, la poésie ont une place dans vos recherches, Fatuma Takebe?
Il y a beaucoup de créativité dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de limite imposée par les équations ou la réalité des choses. C'est vraiment ces poètes, écrivains, écrivaines ont fait vraiment, enfin voilà, ils ont fait parler de leur inspiration, créativité, à quoi leur faisait penser la Lune. Et pour moi, je trouve ça juste magnifique.
Est-ce que ça vous donne des pistes parfois? Est-ce que la fiction vous donne des pistes dans vos recherches, dans votre travail?
Non, mais en fait, ça me permet un peu de moins rendre scientifique ces astres, parce que ça reste des objets célestes avant tout. Avant d'être des objets d'études. Donc c'est juste une manière de me reprendre et dire « contemple cet astre avant de passer à l'explication de pourquoi son mouvement est comme ci, comme ça.
Tous les espoirs que nous placions dans le voyage spatial, défigurés par des distributeurs de boissons et des marchands de t-shirts. Un simple calque de ce que nous voulions fuir en quittant la Terre. Nous sommes des dévoreurs de monde. Si mon père voyait ce que c'est devenu, il mettrait tout ça par terre.
James Gray, Ad Astra, en 2019, nous sommes des dévoreurs de monde. Qu'est-ce qu'il faudrait produire comme contre-imaginaire pour lutter contre cette tendance à dévorer les mondes?
C'est plutôt de la réalité. Pour l'instant, on sait qu'aux États-Unis, il y a un cadre juridique qui permet aux entreprises américaines privées d'exploiter les ressources de la Lune. Et là, il nous faut absolument un cadre juridique au niveau international qui va préserver les ressources de tous les astres célestes. Donc là, c'est vraiment la chose la plus importante à faire dans un premier lieu.
Et donc, il faudrait l'élargir le plus possible.
Élargir
à d'autres planètes,
tous les astres. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont faire en fait. Parce que c'est vrai qu'on dit sur tel objet céleste, il y a tel matériau qui sera intéressant pour la Terre. Comment on s'assure que les gens ne vont pas faire n'importe quoi avec?
Dans les réflexions sur l'environnement et le climat, aujourd'hui, on donne des droits à des fleuves, hein, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer que certaines planètes, certains astres, deviennent des entités juridiques?
C'est ce qu'on espère. Je sais qu'avec des astronomes, notre espoir, c'est que le ciel devienne un endroit protégé par des lois par rapport aux constellations de satellites, donc des groupes de satellites qui envahissent nos ciels et qui rendent plus difficiles, plus compliquées les activités astronomiques. Et pour nous, on trouve ça dommage que bientôt, on n'aura plus de ciel étoilé, on n'aura que des satellites qui vont défiler dans nos ciels. Et donc, il faut qu'on préserve le ciel, parce que ça a aussi une histoire dans pas mal de civilisations, de pays. Et c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé réellement avant l'avènement de tous ces satellites qui sont arrivés depuis 2-3 ans.
Et donc, il faut organiser la préservation de cette contemplation des astres qui est presque racontée depuis les grottes de Lascaux. C'est ce qu'on apprend dans vos ouvrages, Fatouma Takebe. Merci beaucoup. Lettre à la Lune. Et la Lune est un roman aux éditions Slatkin et compagnie. Ce sont vos deux romans publiés à ce jour. Et puis, le cycle de vie du soleil pour petits et grands. Ce sera le 7 août à l'occasion de la Nuit des étoiles au Musée de l'air et de l'espace au Bourget.
Merci. À l'envers.
c'est déjà la nuit des étoiles filantes. Avec Le Grand Sommeil d'Étienne Dao sur France Inter. L'histoire d'un coup d'un soir remixé par Sweet Light qui en fait une splendeur techno-romantique.
Un monde nouveau. Mathilde Serrel sur France Inter.
Le monde est déjà nouveau sur France Inter, reste à en observer les changements sur la Terre comme au ciel et jusqu'aux confins du net. Aujourd'hui, nous accueillons de longue vue Hervé Poirier du nouveau magazine d'actualité scientifique Epsilon et Aurore Bisicchia de la nouvelle revue éthique de la tech Chute Magazine. On commence avec vous Hervé Poirier, vous êtes l'un des rédacteurs en chef du mensuel Epsilon, comme la lettre grecque, et vous venez compléter l'actualité spatiale très riche de ces derniers temps avec une nouveauté passée inaperçue, le poissonaute Hervé.
Oui Mathilde, imaginez des astronautes en train de pêcher sur la Lune. Poétique, non?
Ah, c'est magnifique.
Pas seulement scientifique, surtout. Aucun auteur de science-fiction n'avait imaginé ça, et Cyril Prisbilla de l'IFREMER, l'Institut de Recherche sur l'Océan, ça fait 2 ans qu'il imagine envoyer des poissons sur la Lune pour nourrir les futurs astronautes. La NASA s'intéresse au sujet, et le CNES le soutient. On a interrogé Gilles Rabin, le directeur de l'innovation du Centre National des Études Spatiales, et il dit que c'est un projet magnifique, très intéressant pour la future base lunaire.
Et c'est quoi l'intérêt d'envoyer des poissons dans l'espace, Hervé ?
Quand on envoie un chien ou un homme ou une femme, il faut tout un bouclier pour résister aux vibrations, aux accélérations lors du lancement, aux radiations spatiales, à l'absence de gravité, d'atmosphère, aux variations fortes de température. Mais en fait, quand on envoie une espèce aquacole qui vit dans l'eau, eh bien l'eau est un parfait bouclier. Donc en fait, on se rend compte, et c'est une idée qui nous a profondément émus, séduit, c'est que les meilleurs explorateurs de l'espace sont les espèces aquacoles. Un poisson qui vit dans l'eau, eh ben, il peut résister à cet environnement incroyablement hostile qu'est l'espace. Sans compter que les poissons, ils ont très faible échange gazeux. Ils consomment très peu d'oxygène, ils produisent très peu de dioxyde de carbone. Ils vivent presque en cycle fermé. Avec quelques algues, ils peuvent quasiment être élevés sans apport de nourriture extérieure, avec un peu des déchets de la consommation des astronautes. Et sans oublier la dimension psychologique pour des astronautes qui partent dans des très longs voyages, avoir une espèce vivante qui les accompagne a des évidents bienfaits. Bref, tous ces arguments ont finalement convaincu les experts de l'exploration spatiale que faire pêcher des astronautes sur la Lune est une sacrée bonne idée.
Mais pêcher quel poisson, là est la question, bien sûr.
Alors là, Cyril Prisbilla, qui est responsable de ce projet, celui qui en a eu l'idée, il est dans son domaine. Il connaît les 300 espèces de poissons aquacoles qui sont candidates. Il en a présélectionné 22. Il ne reste plus que 7 dans son liste. Il a une préférence pour le bar et un poisson plat. Cyril Prisbilla espère pouvoir envoyer le premier nano-aquarium, une sorte de verre d'eau, hein, 10 centilitres d'eau, dans l'espace, sur un satellite pour tester en conditions réelles la résistance des œufs fécondés. Et on connaît des chiens qui ont été envoyés dans l'espace, mais ils sont morts. En fait, les poissons vont peut-être y vivre beaucoup mieux que n'importe quelle autre espèce terrestre.
Et alors, la conclusion, c'est que la science a plus d'imagination que la fiction, Hervé, évidemment.
Ça, c'est notre conviction profonde à Epsilon. La source primaire de l'imagination, c'est le réel tel qu'il est décrypté par les scientifiques. Je pense qu'il y aura des très bons romans de science-fiction au XXIe siècle qui s'inspireront de cette idée. Peut-être que si un jour on se fait envahir par des espèces extraterrestres, eh ben ce sera des espèces aquacoles.
2, 1, 0, ignition. On attend donc le prochain envoi d'aquarium dans l'espace. Vous nous l'annoncez donc, Hervé Poirier de la revue Epsilon. Comment la science invente un monde nouveau, c'est tous les mois dans Epsilon. On attend le remake de Gravity avec un bar dans le rôle de Sandra Bullock. À vous, Aurore Bisicchia, cofondatrice et directrice de la publication de Chute Magazine, qui analyse l'impact du numérique dans nos vies. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'entrepreneur spatial Elon Musk, mais moins pour ses fusées que pour son influence sur le cours du Bitcoin.
Et oui, un mot, un tweet, un hashtag de lui, et c'est toute la toile qui s'emballe, Mathilde. Elon Musk a encore frappé, il a réveillé le Bitcoin de son léger sommeil. Alors Elon Musk, c'est le type qui fait des voitures électriques de luxe avec Tesla, qui lance des fusées avec SpaceX, et c'est celui qui, en un message de 280 caractères sur les réseaux, chamboule les marchés et les imaginaires. Et voici sa sortie de la semaine, qui a fait grand bruit lors de la conférence en ligne BeWorld sur les crypto-monnaies. Oui, vous pourrez bientôt de nouveau payer votre voiture Tesla en Bitcoin.
Ah, bah ça va mieux. Enfin, de nouveau, ça veut dire que c'était possible il y a quelques mois d'acheter donc une voiture Tesla avec ses Bitcoins.
Et oui, en mai dernier, il était encore possible de payer sa voiture électrique en Bitcoin. Mais voilà, la création de cette monnaie est très énergivore et son impact environnemental montré du doigt, notamment par le PDG de Tesla.
Et c'est pour ça donc qu'il avait renoncé au paiement en Bitcoin.
Et oui, il déplorait l'utilisation de combustibles fossiles par les usines notamment qui servent à alimenter en énergie les ordinateurs qui effectuent les vérifications et validations de calculs donc de la blockchain du Bitcoin. Bon, la blockchain, pour faire simple, c'est la technologie qui sert à créer le Bitcoin.
La technologie sécurisée, on va dire.
Voilà. Et donc, du coup, trois mois après, il fait un virage à 90 degrés et voit dans le Bitcoin une monnaie d'avenir permettant de s'affranchir des États et déjà en voie de réduire son impact environnemental. Ça va vite.
Mais il faut préciser, évidemment, Aurore, ce qu'est le Bitcoin, une crypto-monnaie, donc autrement dit des actifs financiers qui ne sont pas adossés à un État ou un groupe de pays, comme pour l'euro ou le dollar, par exemple, c'est ça ?
Tout à fait, Mathilde. Et parmi les crypto-monnaies ou crypto-actifs les plus connus, on évoque le plus souvent le Bitcoin, mais il y en a d'autres, comme l'Ethereum ou par exemple le Dogecoin. Même Facebook a lancé sa propre crypto-monnaie avec Diem, anciennement nommée Libra en 2019. En gros, les crypto-monnaies, ça sert à acheter certains types de services et produits, mais ça reste le plus souvent limité. Pour l'exemple du Bitcoin, c'est une ressource finie, comme peut-être l'or. Et ça s'oppose aux monnaies actuelles où la planche à billets tourne à plein régime, surtout en pleine crise Covid. Le nombre maximum de bitcoins pouvant être créé selon la limite inscrite dans son code source est de 21 millions d'unités. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la valeur d'un bitcoin, ça oscille autour des 32 000 euros, selon les jours et bien sûr les effets d'annonce.
Alors, qu'est-ce que ça va changer pour monsieur, madame, tout le monde, aujourd'hui, demain, payer ses courses en bitcoin ?
Alors, pourquoi pas ? C'est sûr qu'on peut acheter dès à présent certaines crypto-monnaies à partir de 1 euro. Pas de bitcoin, mais il y en a qui existent. Et il suffit d'un accès à Internet pour se connecter à des plateformes de trading qui proposent des crypto-actifs. Et autant laisser les banques spécialisées s'en charger, il faut bien le dire.
Est-ce que pour autant, c'est le placement du moment, le bitcoin ?
Alors, les avis divergent beaucoup sur le sujet. Il y en a beaucoup qui ont été échaudés, notamment par les évolutions du bitcoin d'un jour à l'autre. D'autant plus avec les effets d'annonce d'Elon Musk ou encore ceux du PDG de Twitter, Jack Dorsey, ou de Cathie Wood, la présidente d'Ark Invest. Il reste aussi la question de la confiance envers l'entité créatrice de la crypto-monnaie qui est essentielle. Sont-elles plus ou moins dignes de confiance sur la durée que les États souverains ? Autant dire qu'il peut être intéressant de mettre un pied prudent dans le Bitcoin sans pour autant transformer toutes ses économies et son bas de laine en crypto-monnaie.
L'avenir des monnaies sera sans doute hybride. Merci Aurore. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Chute Magazine, le dernier numéro, Amour avec ou sans contact, est disponible actuellement en kiosque et en librairie. C'est un garçon qui part avec sa guitare sur le dos et son stylo dans la poche. Un écrivain, journaliste, réalisateur qui croit profondément que le bonheur n'est pas dans le prêt. Il explore aussi les pays, 75 à ses dires, et puis les continents psychiques comme la paternité. Son dernier livre, envoyé très spécial chez Stock, est une autobiographie ambulante autour du globe des années 2010. Julien Blangras, bonsoir.
Bonsoir Mathilde.
Vous partez où cet été ?
Alors cet été, je vais partir faire un petit tour en Corse.
Oh, original.
Ouais, pas très original, mais en ce moment, on fait avec ce qu'on a.
C'est un explorateur de tous les possibles, un magicien des mots, un artificier de l'instant. Cinéaste, comédien, dramaturge, aventurier pour France Inter. Édouard Baird est en liaison satellite avec nous. Édouard,
oui,
vous m'entendez ?
Bonjour à vous.
Bonjour.
Je vous entends bien, j'espère que la réciproque est vraie. J'étais en train d'acheter des Tesla en Bitcoin. C'est une de mes activités estivales.
Et où est-ce que vous êtes, Édouard ?
Je suis au centre Tesla. Je suis dans une région où il y a des cigales. Alors je suis pas très bon en géographie.
Ah,
je crois que ça doit être au sud de entre Montélimar et la mer.
Alors,
je suis près d'Arles.
Et donc vous,
j'ai envie de tout vous dire. J'ai envie de tout vous
dire. Oh,
vous
dites-moi tout.
J'ai envie d'être des aveux fous. J'ai envie d'être dans l'intime.
Est-ce que on va écouter un extrait des aventures rocambolesques d'Édouard Baird et Jacques Souvent ?
Quoi ? Mais est-ce que c'est gentil ? Vous allez passer un extrait de
mon
émission ?
Tout à fait. Tout à fait. Mais restez avec nous.
C'est les années bonheur.
Je ne me serais jamais lancé au Sénégal à la poursuite de Benoît Poulvorde si j'avais pas eu ce coup de fil.
Oui, je ferai un film avec Benoît Poulvorde. Benoît Poulvorde a disparu.
Quoi ?
On va jamais trouver là-dedans.
Bah, il est à Jean-Alpha.
Quoi ?
Il est chez moi.
Vous étiez laissé entraîner, piégé.
Édouard, ça fait trois jours que je cherche à vous joindre.
On a une bonne piste.
Il est où, sous la main ?
Si l'un d'entre vous a vu un acteur belge, blond et hirsute, signalez-le.
Mais jamais on serait douté qu'on en serait là.
Je sais pas où il est. Pour dire vrai.
Donc c'est pour toi juste qu'on te amène de Dakar à chez toi, quoi.
Pour le dire comme ça, quoi.
Les aventures rocambolesques d'Edouard Bérejac, souvent l'affaire Paul Vord, un feuilleton que vous avez suivi sur France Inter, dernier épisode diffusé ce week-end. Avant la suite, Edouard Bér, la suite, c'est en août, vous êtes sur la piste de Pedro Almodovar.
Oui, il s'est passé un truc incroyable, c'est que le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, ayant écouté sur France Inter l'émission sur Paul Vord, nous a appelé en nous demandant de l'aider. Il nous a appelé au secours, il s'est dit qu'on était peut-être des sortes de détectives privés et qu'on avait la baraka, qu'on retrouvait des choses. Et il lui est arrivé un drame, il a perdu le manuscrit de son nouveau film. Il n'avait qu'un exemplaire, il l'avait écrit entièrement à la main, il a plus envie de faire du cinéma, il nous a demandé de le retrouver.
Alors, où se passe cette chasse au trésor d'Almodovar?
On est parti d'un festival de San Sébastien, un grand festival de cinéma là-bas, donc au Pays Basque espagnol. On est descendu à Madrid et puis on est allé jusqu'au fin fond de l'Andalousie, Almeria, toute cette région-là. On en a bien bavé, je peux vous dire qu'on a... On a dû se battre contre des moulins à vent, quoi, ouais.
C'était Don Quichotte et Sancho Panza. Est-ce que vous avez, au fil de ces pérégrinations, la réponse à cette grande question qui vous anime? Qu'est-ce qui pousse au voyage, la curiosité ou la fuite?
Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire quoi, est-ce qu'on est poussé derrière nous? Est-ce qu'on est tiré en avant? La terre brûlée, tous ces trucs-là, hein, tous ces trucs-là, massifs. Moi, j'aime bien l'émission, j'aime bien avoir un truc à faire. J'ai un peu peur, je suis pas très contemplatif, donc j'aime bien résoudre des trucs et je trouve ça pas mal d'être une sorte... Parce que maintenant, les enquêtes, elles se font beaucoup, c'est comme les rédactions, hein, c'est souvent devant un ordinateur. Aujourd'hui, un vrai polar, il se passerait dans un bureau devant un ordinateur, tandis que là, on doit trouver des choses en vrai, des objets, comme dans une course au trésor. Alors je trouve ça formidable. J'ai pas du tout répondu à votre
question.
Non,
pas du tout.
Mais l'avantage des réponses longues, c'est qu'on oublie quelle était la question.
La fuite ou la curiosité? Julien Blangras peut peut-être répondre.
Deux, bien sûr, c'est parce qu'on est curieux qu'on a envie de s'enfuir, parce qu'on est curieux d'autre chose, qu'on voit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis le contraire est vrai. C'est parce que tout à coup on se sent plus bien là où on est, qu'on se dit qu'il faut y aller. Mais après il y a le voyage immobile qui est très beau, hein, Mathilde. Vous savez.
Bah, bien sûr.
Les grands écrivains voyageurs, c'était des gens immobiles.
Autour de leur chambre. Ah oui.
Non mais même c'est ça, ou qui puisaient dans d'autres livres, dans leur imagination. J'aime bien quand tout est entièrement inventé, des mondes entièrement inventés dans la tête des hommes, c'est beau quand même.
Julien Blangras, vous avez... Oui, non, attends.
Oui, parce que les écrivains voyageurs ne sont pas tous morts.
Il y a un écrivain voyageur qui n'est pas mort, qui est juste à côté de moi, qui s'inscrit. Il s'inscrit
bonjour
en
Edouard.
Faux. Il s'inscrit en faux. Alors il aime pas beaucoup.
Moi j'adore les. J'ai toujours rêvé d'aller à ce festival étonnant voyageur de Saint-Malo, tout ça. Ça me fait rêver.
Ben venez, on y va l'an prochain.
Passez la parole à Mathieu. À monsieur.
Mathieu Blangras, non. Julien Blangras. Non, c'est vrai, le déplacement. Vraiment concret, c'est-à-dire pas à portée de soi et à portée de clic, c'est presque un truc complètement fou.
Bah, c'est complètement fou et surtout ça fait beaucoup plus de bien que de rester chez soi devant son ordinateur. Je dis souvent que moi je voyage par curiosité évidemment, mais aussi pour me réconcilier avec l'humanité, parce que souvent quand on regarde la planète à travers un écran, à travers le prisme des médias, c'est un petit peu terrifiant, un petit peu déprimant, alors que quand on fait l'expérience physique et charnelle du voyage, on se rend compte qu'en fait c'est pas si moche que ça la planète.
Et c'en est fini de la polarisation des consciences, hein. Vous allez loin, hein.
Alors je dis pas que ça permet d'arrêter la polarisation des consciences, mais le fait de voyager permet justement de ne pas rester dans son univers mental et dans sa bulle.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Allez, vos tours, attendez donc votre tour pour manger. Se régaler à niveau tour, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé. qu'à fixer. Si c'est fixi, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
Accordéoniste de Java et Nicolas Giraud, trompette de Claude Nougaro, tous deux disciples et partenaires de Tony Allen, le batteur nigérian mythique et co-inventeur de l'afrobeat. Ils étaient à l'instant, non pas dans un hommage, mais une continuation fertile des œuvres du maître. C'est le projet Tempo Tempo.
France Inter. Un monde nouveau.
Avec Julien Blangras et Édouard Baird, une question commune pour vous deux. Est-ce qu'un voyage mal préparé, c'est un bon voyage avant tout?
Ah, probablement, parce qu'un voyage mal préparé... Si on attend trop quelque chose...
Est-ce qu'un voyage mal préparé est un bon voyage?
Si on attend quelque chose d'un voyage, on risque d'être déçu. Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est l'inattendu. Donc, il faut éventuellement préparer quelque chose et ne pas trouver ce qu'on cherche.
Édouard Baird, vous qui rentrez entre autres de Dakar, Sénégal, sur la piste de Benoît Poelvoorde.
Mais moi, je suis pas du tout comme je viens un grand voyageur. Moi, j'aime bien aller quelque part et puis m'asseoir et puis attendre que les gens passent devant moi. Donc, c'est très différent. En fait, je suis pas. Je trouve que c'est bien. J'aime bien les endroits, les non-lieux, quoi. Les endroits où on peut s'asseoir, les zones neutres. Je suis pas un arpenteur ou un aventurier comme ça. J'aime bien les terrains, des endroits où les gens passent, des endroits pas très, a priori pas très intéressants. Donc, puis si je prépare, je rate. Enfin, je prépare sur place ou alors je loupe les rendez-vous, quoi. Ouais.
Mais c'est la mentalité qui se rapproche de celle de Julien Blangras, c'est-à-dire ce jeu du hasard que vous avez aussi avec Jacques Souvent, votre comparse, hein, un jeu qui héritait aussi de la méthode Bizot des années actuelles.
La méthode Bizot, c'est d'aller vers les gens. Nous, je pense que Julien, ce qui est passionnant, parce que le reste, on sait bien, les grands paysages, tout ce qui est Instagrammable ou bien tout ce qu'on voit à la télé qui est vue par drone, les émissions de voyage, c'est là où l'œil humain n'ira jamais. Les émissions de télé, elles sont toujours filmées maintenant dans des endroits où on va pas, c'est-à-dire par des drones, il n'y a que les oiseaux qui y vont. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer des gens. Donc moi, j'aime bien Depardieu, il aime être dans des endroits dont il parle pas la langue, parce qu'il aime bien sentir les gens à la musique de leurs phrases. Moi, j'aime bien
aller au contraire dans des endroits francophones avec l'idée qu'on peut prendre langue avec tout le monde. Et c'est ça qui me fascine le plus, quoi, dans les voyages. Et
Julien Blangraff, vous aimez prendre langue également, oui. Notamment au Mexique. Hein. Je crois que ça a été une belle aventure.
Oui, bah ça,
pour
c'était un peu mon voyage initiatique où j'étais parti sans but particulier, justement, en pensant rester quelques semaines. Au final, je suis resté un an en voyageant tout seul comme ça. Et à l'issue de ce voyage, j'ai écrit mon premier roman, ce qui me permet de revenir sur Jean-François Bizot, qui l'avait lu. Donc j'avais fait quelques
pages. Le fondateur d'Actuel, voilà, Innova.
Innova à l'époque. Et voilà. Son approche du voyage, j'avais lu son bouquin sur l'Afrique, Vaudou et compagnie, c'était une compilation de reportages, comme mon livre aujourd'hui. Et voilà, c'était son état d'esprit est une influence majeure, évidemment.
Alors, on parlait de Gérard Depardieu tout à l'heure, on va justement s'intéresser à l'Azerbaïdjan, Julien Blangraff.
Bizim sənət rəqabətdir bilirsən, toxun işi ticarətdir bilirsən, bizim sənət rəqabətdir bilirsən, onun üçün yoxdur o pul söz, payız o günə birini tutsun gözü, mənə qızın nə var uslan özü, nə də ki sora.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Mais c'est du Merana.
Et tout à fait. Alors expliquez-nous, parce que il arrive qu'on voyage, donc on ne prépare pas et on découvre. Et vous avez un scoop entre les mains. Vous connaissez la naissance du hip-hop du côté est du rideau de fer, Julien Blangraff.
Alors tenez-vous bien, effectivement, j'ai un scoop sur la naissance du hip-hop. C'est pas du tout né à New York. Donc, il se trouve que j'étais en Azerbaïdjan et j'étais tombé par hasard sur l'histoire de ce gars qui s'appelait Chingiz Mustafayev, qui était un héros national très officiel. Qui est mort il y a une trentaine d'années maintenant. C'est un mec qui est mort jeune, qui était médecin, reporter de guerre, c'est pour ça que je m'étais intéressé à lui. Mais il était aussi l'inventeur, enfin en tout cas le producteur du premier rap azerbaïdjanais dans les années 80. Et donc je suis allé en Azerbaïdjan et j'ai discuté avec les gens là-bas. Ils m'ont dit, mais le rap quand c'est arrivé, on connaissait déjà nous. Il y avait notre Merana. Et donc le Merana, c'est cette espèce de poésie scandée qui date du Moyen-Âge. Et donc il y a un peu une sorte d'ancêtre
Merana,
d'islam.
Merana, ça veut dire taverne, ça veut
voilà.
dire un endroit où on se
et donc les gens dans les tavernes buvaient, hein, comme on fait dans les tavernes, et tapaient le rythme, battaient le rythme en tapant sur les tables et déclamaient de la poésie comme ça, avec une métrique assez précise. En fait, c'est un peu l'ancêtre de la battle hip-hop.
Est-ce que le voyage, c'est pas le dernier bar avant la fin du monde?
J'adore cette expression, j'entends qu'Edouard rigole aussi. Effectivement, moi je dis souvent que ma méthode pour commencer à investiguer sur un pays, c'est de débarquer et d'aller au bistrot, outre l'anecdote et la rigolade. C'est quand même l'endroit où les gens parlent, où les langues se délient et où il se passe des choses. C'est un bon point de départ en tout cas.
Edouard Baird, une taverne ou un pays?
Et en
les deux.
Cas, quand quelque part on a trouvé un lieu qui est juste, il vaut mieux s'y asseoir et attendre que le pays y passe plutôt que arpenter le pays. Il vaut mieux, une fois qu'on a trouvé un lieu juste, je crois que les gens vont, le pays va défiler. Mais je me rappelle Bizot en voyant juste ça, puisqu'on parlait de Jean-François Bizot, notre maître, c'est que j'avais été au Bénin avec lui, et alors son truc, c'est sa chambre d'hôtel, c'était que des disques, des livres, des journaux locaux, des machins, trucs. Il y a un mec qui voulait le peindre, il y avait des petits numéros de téléphone griffonnés, il y avait une matérialisation, c'est le contraire de la numérisation, quoi. Le voyage se transformait en objet, en machin. C'était dément de bordel, la chambre de Bizot. Il avait trouvé en Afrique trouvé des tailleurs qui lui apprenaient qu'il lui faisait des machins, des fringues. Et au bout de semaines, ça devenait un amas de. C'était le pays à lui tout seul, sa chambre. C'était un résumé de tout.
Alors, du coup, c'est matérialisé et moins instagramisé, on va dire. Au début du livre de Julien Blangraff, on découvre, en fait, on apprend des choses, hein, évidemment. L'origine de la carte postale, ça se passe en Allemagne, dans une assemblée exclusivement composée d'hommes, à Rouflaquette. Et puis, il y a un type qui est facteur qui va devenir ministre, qui dit, les gars, j'ai une solution, c'est la carte postale. Mais surtout, Julien, vous finissez par cette conclusion qui est que la carte postale, c'était un « je pense à toi », alors qu'aujourd'hui, justement, on va dire dans la numérisation des voyages, et sur Instagram notamment, c'est surtout « regardez-moi ».
Et oui, parce que c'est un post, c'est un peu l'équivalent, le post Instagram de la carte postale, sauf que comme vous venez de le dire, le Instagram, c'est plus « regardez-moi ». Et voilà, c'est un petit peu rapide. Donc moi, je préfère le principe de la carte postale où on pense à quelqu'un, on transmet quelque chose, on essaye de donner une émotion. Et puis, de toute façon, je suis nul avec les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça aussi.
Est-ce que vous écrivez encore des cartes postales, Edouard Baird?
Non, j'aime bien les cartes postales très craignos, où il y a vraiment des vannes minables, des maillots de bain très échancrés, des types très beaux, tout ça, j'aime bien.
Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée de Julien, que j'aime beaucoup, de Julien Blangraff, qui est que le voyage serait d'affronter la nuance, enfin, comme si c'était un peu, je sais pas, un monstre ou une bataille?
Moi, j'ai pas envie d'être d'accord avec Julien, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de
discussion. Évidemment.
Justement, c'est ça, on rêve d'un monde en paix quand même.
J'aime bien, c'est pour ça qu'on adorait aussi le Nicolas Bouvier, qui est un peu le premier routard. C'est des voyages qui sont des effondrements, qui sont des catastrophes, qui sont des gens qui sont là, qui sont étouffés par le, justement, par l'exotisme, par l'incompréhension, par la solitude, par les accidents. Ça, je trouve ça formidable.
Il y a un paradigme de l'immobilité dans lequel on est. C'est-à-dire, on part du principe qu'on serait mieux chez soi, qui est peut-être une fausse piste. Julien Blangras.
Bah, disons que dans l'année qu'on vient de passer, on n'avait pas trop le choix, on était un peu coincé chez nous. Non, je crois que ça dépend des caractères. Je cite souvent cette phrase de Rudyard Kipling, tout bien pesé, il n'y a que deux sortes d'hommes, ceux qui restent chez eux et les autres. Donc en fait, non, je crois que c'est juste une histoire de tempérament et Dieu merci, les hommes et les femmes ont toujours eu l'idée d'aller voir ailleurs comment ça se passe et voir ailleurs s'ils y étaient ou pas.
Alors, Edouard Béat parlait tout à l'heure de voyages immobiles. On va célébrer les 40 ans, on les célèbre, de la loi Longue sur le prix unique du livre, la diversité littéraire préservée donc par une action comme ça utopique puis politique. Qu'est-ce que vous conseilleriez l'un et l'autre comme lecture de vacances ou pas, d'ailleurs ?
Alors moi, je conseillerais très volontiers un livre de Guillaume Jean qui s'appelle « Train Savane » qui se passe au Congo. Je conseillerais parce que c'est un livre merveilleux, déjà merveilleusement bien écrit. Et c'est l'histoire d'un reporter un peu rêveur, un peu Don Quichotte, qui part faire un reportage au Congo sur les pygmées et qui, en cours de route, trouve l'amour de sa vie et se marie dans un village pygmée. C'est un livre qui permet de comprendre que tout est possible en voyage.
Édouard Baird, une lecture.
Alors, non, moi je repense à deux livres de voyage là, qui me viennent comme ça, que j'ai adoré. Il y a les chroniques japonaises de Nicolas Bouvier, que je trouve démente. C'est pas des livres récents, hein, mais
je suis
ça se trouve en poche, ça se trouve. Et puis Kapuscinski, pour moi, l'écrivain polonais qui était correspondant en Afrique. Il y a un livre qui s'appelle Eben, qui est le plus beau livre, je trouve, sur le comme ça de reportage de mouvement en Afrique. Ça s'appelle Eben de Kapuscinski, avec un K comme dans Caput.
Alors, il y a aussi un grand auteur de chansons, cette fois, qui a peut-être très bien décrit le voyage. C'est Jean-Loup Dabadie. Et oui, pour Julien Clerc. Bon, qu'est-ce que vous écoutez, vous, l'un et l'autre, pour avoir envie de partir et de tout foutre en l'air ?
Moi, j'aime beaucoup Jean-Loup Dabadie. J'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'est un très grand parolier qui écrit des chansons pour Reggiani aussi, absolument magnifique. Et j'aime bien Julien Clerc aussi.
Julien Blangras.
Je sais pas, là je pense à Pierre Barou avec sa chanson Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer.
Qui a inventé donc, enfin qui a remporté plutôt la bossa nova en France. Merci à vous deux. Je rappelle que Julien Blangras a publié Envoyé un peu spécial chez Stock. Quant à Édouard Baird et Jacques Souvent, Le trésor d'Almodovar, ce sera diffusé à partir du 7 août et le dimanche 8 août. Et puis dernier épisode de ses aventures sur la piste de Benoît Poulvord, rocambolesque, ce week-end.
La fin de votre mois. Vous êtes contente, Mathilde, de votre mois ? Ça s'est bien passé ?
Oui, alors, on part. Oui, bien sûr. Donc, j'étais assez contente. Je pense qu'on peut en faire plus pour le monde nouveau. Pardon, mais il faut que je remercie toute l'équipe. Et je remercie Gaëtan Colli à la réalisation, Camille Pouge à la guillée, Marie Mougin à la programmation et la préparation de l'émission, Lily Cornillac et Anaïs Dinard qui est à la technique ce soir, Ronan Mahé.